Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue, la Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Bonsoir à tous et à toutes au micro, Idrissa Seloudia pour ce premier bulletin d'information de la soirée. Au Nigeria, le nombre de lycéennes ayant réussi à échapper à leurs ravisseurs s'établit maintenant à 44 et 85 sont toujours portées manquantes, ont dit aujourd'hui les autorités. Le kidnapping a eu lieu lors d'un raid lancé par des hommes armés lundi sur une école secondaire de Chibok dans le nord-est. Hier, le principal du lycée avait dit que les filles s'étaient évadées en sautant des véhicules des ravisseurs, en s'échappant du camp où elles étaient retenues par, pense-t-on, des éléments présumés de Boko Haram. Une chasse à l'homme a été organisée. Par ailleurs, et selon l'AFP, Boko Haram a revendiqué un attentat à la bombe qui a fait lundi 75 morts à Abuja, la capitale. Le bilan de l'attaque contre une base des Nations Unies au Soudan du Sud s'établit maintenant à 58 et à plus de 100 blessés. Selon des officiels onusiens, beaucoup des victimes sont des nuers qui s'étaient réfugiés sur la base à bord après le début des hostilités dans le pays l'an dernier. Les assaillants armés manifestaient devant la base, disent des témoins, avant de prendre d'assaut le camp. Mais le ministre sud-soudanais de l'information accuse les casques bleus d'avoir provoqué l'attaque en tirant en l'air. En Ukraine, le gouvernement annonce une pause dans ses opérations pour chasser les militants pro-russes des bâtiments qu'ils occupent. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette pause est due à la fête de Pâques et donnera aussi un peu plus de temps aux observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour s'organiser. Celle-ci avait, en mars, lancé une mission spéciale d'information sur la sécurité et les droits de l'homme en Ukraine. Elle doit aussi aider à lancer le dialogue dans le pays. D'autre part, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que rien ne devrait entraver la normalisation des relations entre la Russie et l'Ouest, ajoutant que cela ne dépend pas seulement de la Russie, mais aussi de l'Ouest. En Corée du Sud, la police a officiellement arrêté le capitaine et deux membres d'équipage du ferry qui a fait naufrage mercredi. Ils sont accusés d'avoir déserté ses passagers peu après l'accident. Selon des témoins, le capitaine était l'un des premiers à abandonner le bateau qui avait 476 personnes à bord, la plupart des lycéens. On confirme la mort de 32 d'entre eux. Les 270 sont toujours portés manquants, mais on est de plus en plus pessimiste quant à leur survie. Au Népal, les secouristes ont retrouvé un 13e corps dans la neige aujourd'hui après l'avalanche la plus meurtrière de l'histoire de l'Everest, le plus haut sommet du monde. Trois guides sont toujours portés disparus et une centaine d'alpinistes bloqués au-dessus du site de l'accident. Trois guides ont été blessés. Quatre journalistes français retenus en otage depuis presque un an sont maintenant libres. Dans une déclaration, le président François Hollande a dit avoir appris avec un immense soulagement ce matin la libération de nos quatre confrères. Les quatre journalistes portés disparus en juin ont été retrouvés par des soldats turcs à la frontière syrienne, ligotés et les yeux bandés. Au Yémen, les autorités annoncent qu'au moins 13 militants présumés d'Al-Qaïda ont été tués aujourd'hui dans une frappe de drone ciblant leur véhicule dans la province de Baïda, centre du pays. Selon l'AFP, citant un responsable sécuritaire au Yémen, 15 militants ont été tués ainsi que 3 civils. L'information n'a pas été confirmée. Le président Barack Obama a signé une loi hier empêchant un diplomate iranien de servir en tant qu'ambassadeur aux Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. La souche d'Ebola en Afrique de l'Ouest, différente de celle repérée en Afrique centrale.
L'analyse suggère que cette souche virale en Guinée, baptisée Guinean Ebov, a évolué en parallèle avec des souches en République démocratique du Congo et du Gabon à partir d'un ancêtre commun récent et n'a pas été introduite ultérieurement en Guinée.
Lionel Gaïma nous en dira davantage. Des astronomes mesurent très précisément le taux d'expansion de l'univers.
Nous utilisons un télescope qui est aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, qui est un télescope de 2,5 mètres de diamètre et qui observe 1 500 000 galaxies et 160 000 quasars.
On entendra Timothée Delubac du projet BOSS. Et 76 millions de personnes âgées dans le monde sont exclues des systèmes de santé, affirme l'ONG HelpAge International. La souche du virus Ebola qui a coûté la vie à plus de 120 personnes en Afrique de l'Ouest pourrait avoir circulé dans la région inaperçue depuis un certain nombre d'années, selon une nouvelle étude publiée cette semaine. Lionel Gaïma.
Il s'agit de la toute première épidémie déclarée de virus Ebola dans la région. Auparavant, les seuls cas de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest avaient été signalés en Côte d'Ivoire en 1994. Mais d'après la nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine, l'analyse de l'ADN a montré qu'il s'agirait d'une nouvelle souche. L'analyse suggère que cette souche virale en Guinée, baptisée Guinean Ebov, a évolué en parallèle avec des souches en République démocratique du Congo et du Gabon à partir d'un ancêtre commun récent et n'a pas été introduite ultérieurement en Guinée, précisent les virologues. Le virus qui pénalise actuellement l'Afrique de l'Ouest est membre de l'espèce Zaïre qui tue plus de victimes, ajoute-t-il. Jusqu'à présent, 5 souches de virus avaient été identifiées essentiellement en Afrique centrale, République démocratique du Congo, Ouganda et Soudan. La souche originaire de Guinée est donc la 6e forme distincte du virus Ebola. Il pourrait y en avoir d'autres, affirme le Dr James Cohn, virologue à l'Institut national américain de la santé. Il pourrait y avoir beaucoup de variétés dans ces virus. Ils pourraient se trouver dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est où nous n'avons pas entendu parler de l'épidémie à ce jour. Cohn, qui dirige le laboratoire du NIH chargé d'étudier les virus les plus dangereux du monde, travaille sur les moyens de traiter et de prévenir l'infection à virus Ebola. La leçon de cette épidémie, dit-il, c'est que l'humanité a reçu un avertissement. C'est un avertissement que la variabilité de ces virus est plus grande qu'on ne le pensait. Et il est donc très important pour nous de développer un traitement plus large plutôt que de chercher à protéger contre une seule variante de la maladie. Entre-temps, la meilleure façon de se protéger, rappellent les experts, reste d'éviter tout contact avec du sang ou des fluides corporels d'une personne infectée.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous. Toujours concernant cette épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, une équipe internationale de chercheurs a intensifié la production d'anticorps expérimentaux. Un traitement, disent-ils, qui a le potentiel de guérir les personnes infectées par le virus Ebola, un virus dont le taux de mortalité se chiffre à environ 90%. Morgan Guiriec.
20 laboratoires et centres de recherche à travers le monde, y compris au Canada, au Japon, en Israël, en Ouganda et aux États-Unis, travaillent simultanément pour développer des anticorps contre le virus Ebola. Les anticorps sont des molécules biologiques impliquées dans l'immunité, une première ligne de défense pour lutter contre la maladie lors de l'exposition initiale à une infection. Certaines protéines du système immunitaire ciblant le virus Ebola, qui sont administrées par injection, ont un taux de guérison élevé chez l'animal, affirme Orica Holman-Safir, immunologiste à l'Institut de recherche Scripps de la Jolla en Californie. Nous avons fait beaucoup d'expériences sur des primates, mais pas des êtres humains. Et si vous pouvez faire apparaître les anticorps dans les 48 heures après l'exposition au virus, vous pouvez sauver pratiquement tous les animaux, a expliqué Madame Holman-Safir. Les États-Unis ont contribué 28 millions de dollars aux recherches sur environ 6 anticorps en cours de développement dans le monde, qui se sont avérés les plus efficaces dans la lutte contre le virus Ebola. Un traitement contre le virus Ebola pourrait éventuellement inclure un mélange de plusieurs anticorps. Une chose est certaine, la communauté internationale fait front commun dans ce domaine. L'effort mondial pour développer un médicament à base d'anticorps contre le virus Ebola est unique dans le monde de la virologie, affirme Madame Holman-Safir. Ce qui est magnifique, c'est que l'ensemble du domaine contribue à l'étude pour qu'on aboutisse au meilleur et seul traitement disponible dans le monde, souligne l'experte. Donc, il ne s'agira pas d'un traitement canadien qui entrerait en compétition avec un traitement américain, etc. Non, tout le monde s'y est mis, tout le monde coopère, ajoute-t-elle.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour cette édition de Carrefour Science et Santé sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Une équipe internationale d'astronomes a découvert la première planète hors du système solaire d'une taille comparable à la Terre et sur laquelle l'eau pourrait exister à l'état liquide, rendant la vie possible. Surnommée Kepler-186f, cette planète se trouve dans un système stellaire situé à 490 années-lumière du Soleil. Ce système compte 5 planètes toutes de taille proche de celle de la Terre, mais voilà, seul Kepler-186f est situé dans la zone habitable, les autres étant trop proches de l'étoile. À noter néanmoins que Kepler-186f n'est pas vraiment une jumelle de la Terre, explique la scientifique Elisa Quintana de l'agence spatiale américaine, la NASA.
It's more of an Earth cousin.
C'est plutôt une cousine de la Terre et non pas une jumelle, dit-elle. Elle partage les mêmes caractéristiques de la Terre, mais son étoile est très différente. Nettement plus petite et plus froide que notre Soleil, ajoute la scientifique. Il n'en reste pas moins que ce serait l'exoplanète qui, à ce jour, ressemble le plus à la Terre. Sur les près de 1800 exoplanètes détectées au cours des deux dernières décennies, une vingtaine seulement sont en orbite autour de leur étoile dans la zone habitable et beaucoup sont d'une taille supérieure à celle de la Terre. Le plus grand nombre d'exoplanètes sont en fait des géants gazeux, tels Jupiter ou Saturne, Uranus ou Neptune. D'autres sont trop proches de leur étoile comme Vénus.
For the first time, we can actually say that we now have a planet that is both Earth-sized.
Pour la première fois, nous pouvons dire que nous avons une planète qui est à la fois de la taille de la Terre, mais dont l'orbite est située dans la zone dite habitable, souligne Madame Quintana. Camille Grosdidier avec vous pour Carrefour Science et Santé, un programme que vous suivez sur les ondes de la Voix de l'Amérique. On reste dans l'espace pour signaler que les astronomes du Sloan Digital Sky Survey ont réalisé la mesure la plus précise à ce jour du taux d'expansion de l'univers. Ce programme est le pionnier de nouvelles méthodes de mesure précise de l'histoire cosmique de l'univers. Les astronomes ont utilisé 140 000 quasars lointains pour mesurer le taux d'expansion de l'univers quand il était âgé seulement d'un quart de son âge actuel. Et c'est à ce jour donc la meilleure mesure du taux d'expansion à quelque époque que ce soit au cours des 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang, l'explosion colossale qui a vu la création de notre univers. Parmi ces chercheurs, Timothée Delubac du projet BOSS, en anglais Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, qui fait partie du programme SDSS.
Nous utilisons un télescope qui est aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, qui est un télescope de 2,5 mètres de diamètre et qui observe 1 500 000 galaxies et 160 000 quasars. Donc les quasars sont des types un peu particuliers de galaxies qui sont en fait des trous noirs extrêmement massifs qui accrètent énormément de matière. Et de ce fait-là, ils mettent énormément de lumière. On pourrait penser que ce sont des objets sombres, puisque ce sont des trous noirs, mais la matière qui tombe sur ces trous noirs les rend extrêmement lumineux. Et comme ils sont extrêmement lumineux, on peut les observer jusque très loin dans l'univers.
Et c'est la distribution de gaz d'hydrogène qui permet de mesurer ?
Alors ce que l'on fait en fait, c'est qu'on utilise ces quasars comme source de lumière d'arrière-plan. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'intéresser aux quasars en tant qu'objet astrophysique, en tant que tel, mais on utilise le fait que la lumière qu'ils émettent traverse le milieu intergalactique avant de nous arriver. Et cette lumière, elle traverse des nuages d'hydrogène qui sont dans le milieu intergalactique, et ces nuages absorbent une partie de la lumière émise par les quasars. Et donc en regardant la lumière qui nous arrive des quasars, on arrive à reconstituer la position des nuages d'hydrogène le long de la ligne de visée des quasars. Et c'est cette position des nuages d'hydrogène qui nous donne une information sur la distribution de matière dans l'univers.
Quelle est la mesure à laquelle vous êtes parvenu ?
Donc en fait, on regarde justement cette distribution de matière de l'univers, la distribution de l'hydrogène, et on essaye de trouver une échelle particulière qui s'appelle oscillation acoustique de baryon, qui est un nom scientifique pour dire en fait qu'il y a une échelle caractéristique dans cette distribution de matière, dont on connaît la taille, grâce à des calculs théoriques, on peut calculer cette taille. Et donc en observant la façon dont la taille de cette échelle caractéristique varie avec l'âge de l'univers, on est capable de retrouver l'expansion de l'univers.
L'expansion de l'univers était très rapide au début, elle a ralenti, elle a repris. Quel est le mystère ?
Effectivement, l'expansion était relativement rapide au début de l'univers et elle s'est ralentie à cause de la force de gravitation, en fait, puisque l'univers est constitué de matière et la matière s'attire elle-même donc par la force de gravitation, et donc on s'attend à ce que l'expansion de l'univers soit décélérée. Et ça, donc, la mesure que l'on a faite prouve qu'effectivement, quand l'univers était relativement jeune, quand il avait 3 milliards d'années, donc il en a maintenant 13,7, et ben l'expansion de l'univers était décélérée. Et ce qu'on observe, c'est que maintenant que l'univers est plus vieux, donc il a 13,7 milliards d'années, cette expansion est réaccélérée par une énergie dont on ne connaît pas la nature, qu'on appelle énergie noire ou énergie sombre. Et donc ce qu'on veut comprendre, c'est quelle est la nature justement de cette énergie sombre. Et pour arriver à comprendre sa nature, qui nous reste pour l'instant mystérieuse, l'idée c'est d'arriver à observer très précisément la façon dont cette énergie réaccélère l'expansion de l'univers. Et on pense que si on contraint très précisément la façon dont cette énergie agit sur l'expansion de l'univers, on arrivera à apprendre quelque chose sur la nature de cette énergie noire. On peut ajouter que pour arriver à contraindre la nature de l'énergie noire, on a besoin de faire des mesures du taux d'expansion de l'univers à différentes époques de l'âge de l'univers. Et donc, on la connaît aujourd'hui, quand l'univers a 13,7 milliards d'années, et la mesure que l'on a faite est la mesure la plus loin que l'on ait fait de nous, puisqu'on l'a faite, en fait, quand l'univers avait seulement 3 milliards d'années, donc c'est-à-dire quand l'univers était 11 milliards d'années plus jeune. Et c'est la mesure la plus précise que l'on ait à toute époque du taux d'expansion de l'univers. C'est une mesure qui a une imprécision de 2%.
On écoutait M. Timothée Delubac du projet BOSS, qui était joint en Suisse. Ici Washington, Camille Grosdidier pour Carrefour Sciences et Santé. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. 78 millions de personnes âgées dans le monde sont exclues des systèmes de santé. Et dans 38 des 194 pays membres des Nations Unies, l'espérance de vie à 60 ans a diminué ou est restée statique, selon l'ONG HelpAge International. D'où le besoin urgent d'améliorer la couverture des systèmes de santé pour les personnes âgées, explique Catherine Dussault de HelpAge International. On l'écoute.
Si on regarde l'évolution de l'espérance de vie à 60 ans, elle est moindre comparée au gain que l'on a eu sur l'espérance de vie à la naissance, elle est beaucoup moins. Et dans 38 pays, elle est même ou nulle ou négative. Donc effectivement, ça reflète une situation qui n'est pas satisfaisante parce que l'être humain peut vivre beaucoup plus longtemps et il peut vivre bien. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Ben évidemment, il y a plusieurs facteurs.
Oui.
Un premier facteur, c'est la priorité qui a été donnée à la santé des petits-enfants. Durant beaucoup d'années, on a travaillé beaucoup sur ce groupe d'âge, mais ça a eu une influence sur la manière dont travaillent nos services de santé. Et ça a mobilisé aussi beaucoup de ressources sur ce groupe d'âge. Donc, s'il y a une mobilisation des ressources et une priorisation sur ce groupe d'âge, évidemment, il y a d'autres groupes d'âge, pas seulement les personnes âgées, qui ne bénéficient pas de cet appui. Alors, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est les styles de vie que l'on a, qui ne sont pas forcément très sains. On sait maintenant que l'obésité, par exemple, est un facteur de risque qui est d'actualité et de santé publique.
L'obésité, puis l'alcool, le tabac et l'abus des graisses animales.
La mauvaise alimentation que l'on peut avoir, le fait qu'on soit sédentaire aussi, qu'on ne fasse pas d'activité physique. Alors, tous ces styles de vie, ça fait qu'on arrive à 60 ans. Oui, on n'est pas mort, mais on n'a pas forcément un état de santé qui est optimum. On voit apparaître beaucoup de maladies chroniques. Et ces maladies chroniques, elles ne sont pas détectées ni traitées comme elles devraient l'être. Donc, c'est un autre facteur qui fait que si on passe les 60 ans, mais on ne vit pas beaucoup plus que les 60 ans et on ne les vit pas dans des conditions très agréables.
Comment pourrait-on améliorer cette espérance de vie des plus de 60 ans?
Si on reprend ces facteurs négatifs auxquels bon, j'ajouterais peut-être aussi dans beaucoup de pays, et c'est le cas d'Amérique latine où je travaille avec Elpage, c'est la privatisation aussi des services de santé. C'est un phénomène que l'on voit depuis les années 90 et qui a fait que l'accès aux soins de santé primaires et l'accès aux soins de santé en général ne soit pas une réalité pour beaucoup de personnes, et ce n'est pas seulement les personnes âgées. C'est un fait que je voulais ajouter et qui a beaucoup d'importance parce qu'une des premières solutions pour essayer d'améliorer l'espérance de vie qui est due à un état de santé, mais qui est due aussi à d'autres facteurs sociaux et économiques qui influencent bien sûr la santé. Si je n'ai pas beaucoup de revenus, j'ai plus de difficultés à accéder à des soins de santé. Si je vis dans des conditions de nourriture, d'alimentation défavorables, évidemment, mon état de santé va s'en ressentir. Donc, il y a des actions à porter sur les services de santé. Il y a d'autres facteurs, non?
HelpAge mentionne le développement des services de santé communautaires qui a montré son efficacité.
Les soins de santé communautaires, les soins de santé primaires, j'appelle ça l'arlésienne, on en parle beaucoup. Mais c'est des soins de santé qui n'ont pas été très développés. On est très sophistiqués, on a des beaux hôpitaux, mais on n'a pas ce qu'on appelle les services de soins de proximité, c'est-à-dire des soins où je peux accéder facilement, rapidement, sans un coût de transport.
Oui.
Donc c'est un premier point, si on n'a pas cette santé de proximité.
Un dispensaire où on peut aller pour un rhume, une otite, une grippe, une petite crise de foie.
Oui, mais aussi des maladies chroniques, c'est-à-dire des maladies chroniques. On sait qu'on doit suivre un traitement pour l'hypertension artérielle, par exemple, mais on ne va pas aller à des kilomètres à la grande ville pour chercher son traitement ou pour se faire suivre. Donc, les services de proximité, c'est très, très important pour toutes les sortes de maladies, mais c'est très important pour les maladies chroniques et c'est très important pour une stratégie qui a été aussi peu développé finalement qu'est la prévention.
Mais évidemment, il faut payer, ce n'est pas toujours remboursé, etc.
Oui, mais si on parle du coût, ce que les pays plus développés se rendent compte, c'est que finalement, ces soins de proximité, ces soins de santé primaire, coûtent moins cher. Et ça stoppe la spirale un peu infernale des coûts de santé.
Alors finalement, est-ce que les femmes âgées ont des besoins de santé particuliers?
Effectivement, les femmes ont la tendance à vivre plus longtemps. Ceci dit, elles ont aussi la tendance à développer, par cette longévité, mais aussi par des caractéristiques physiques, de développer certaines maladies, en particulier l'ostéoporose, en particulier l'Alzheimer, et des pathologies d'arthrose. Alors, effectivement, il faut pouvoir donner à ces femmes âgées la possibilité d'accès aux soins, pour ces maladies, d'accès aux soins et de prévention. Mais ceci dit, à l'étape de la vieillesse, il y a beaucoup de facteurs qui sont aussi au détriment de la santé des hommes. Par exemple, les hommes ont développé moins de réseaux sociaux, ils ont une perte de statut qui fait qu'ils dépriment plus facilement qu'une femme. Enfin, il faut savoir reconnaître les nécessités des hommes et des femmes. C'est très important parce que sinon on va continuer à parler des femmes et malheureusement dans l'étape de vieillesse, les hommes confrontent aussi des nécessités très spécifiques.
Madame Catherine Dussault de HelpAge International, elle était jointe en Amérique latine.
Retrouvez La Voix de l'Amérique sur votre portable. Les dernières informations, nos photos et vidéos, rendez-vous sur fr.voa.mobi. Tapez fr.voa.mobi et suivez la VOA partout dans le monde avec votre mobile.
Ici Washington, Camille Grodidier pour Carrefour Science et Santé sur La Voix de l'Amérique. Réduire de trois quarts entre 1990 et 2015 le taux de mortalité maternelle, tel est l'un des objectifs du millénaire pour le développement fixé par les Nations Unies. À un an de l'échéance, la Mauritanie accuse un retard certain dans l'amélioration de la santé maternelle. Avec 686 décès pour 100 000 naissances vivantes, le taux de mortalité maternelle en Mauritanie est toujours l'un des plus élevés de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Alors, quelles sont les raisons de ce retard de la Mauritanie? Eh bien, je vous propose de suivre un reportage de notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia.
Les causes de cette mortalité maternelle élevée sont multiples. Docteur Baaï Setayaya, directrice du centre hospitalier mère et enfant de Nouakchott, insiste sur ce qui est appelé les trois retards.
Les trois retards, c'est d'abord au niveau de la famille. Si, par exemple, une femme est enceinte, il faut qu'au niveau de la famille, qu'elle veuille bien aller se consulter. Parce que si elle décide de rester, d'accoucher à domicile et tout ça, ça, c'est pas l'État, ça, c'est pas l'hôpital, ça, c'est un problème de mentalité. Donc, ça se passe au niveau de la communauté. Le deuxième retard, c'est les infrastructures. Une patiente qui décide d'aller se consulter, peut-être qu'elle habite dans un village très enclavé. Comment elle va faire en saison de pluie, par exemple? Comment elle va faire pour accéder aux postes de santé? Donc, tout ce qui est infrastructure, route et tout ça, ça, c'est l'État.
Le troisième retard, c'est quand les patientes arrivent au niveau des structures de santé. Elles ne sont pas rapidement prises en charge. Autre cause de la mortalité maternelle, la culture du don du sang n'est pas bien ancrée en Mauritanie. Docteur Mohamed Cheikh, gynécologue au centre hospitalier mère et enfant.
Nous retrouvons avec des banques de sang dans nos structures sanitaires de l'intérieur, surtout du pays, des structures de banques de sang carrément vides.
À Magama, une ville située à un peu plus de 400 km de Nouakchott, des femmes ont récemment manifesté pour dénoncer la dégradation des conditions de prise en charge des grossesses et accouchements. Brahim Dia à Nouakchott pour La Voix de l'Amérique.
Le service francophone de La Voix de l'Amérique sur satellite. Nos émissions sont désormais disponibles sur Arabsat, 26 degrés Est, fréquence de réception 11 938 GHz. Effectuez une recherche sur tous les canaux pour retrouver vos émissions habituelles, la VOA, avec vous, partout.
Camille Grodidier pour Carrefour Science et Santé. Et pour finir, cette édition que vous suivez sur La Voix de l'Amérique. Lorsqu'on parle de drones, ces appareils sans pilote et totalement autonomes, on songe surtout à la surveillance aérienne. Mais voilà, un nombre croissant de drones sont développés pour travailler en mer. À preuve, le robot sous-marin Bluefin 21 de la marine américaine, chargé de retrouver dans l'océan Indien la trace du vol 370 de la Malaysia Airlines, qui a disparu après avoir décollé de Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Beijing. Et si les drones aériens intègrent l'énergie solaire, les drones marins peuvent, eux, profiter également des énergies maritimes et éoliennes. À preuve, le Wave Glider, un planeur surfant sur les vagues capable de rester en mer pendant des mois. C'est l'œuvre de la société californienne Liquid Robotics qui précise que le drone peut répercuter par satellite des masses de données sur la météo et bien sûr la mer. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grodidier qui vous remercie de l'avoir suivi.